La sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour avec Mel Trudel, la sexploratrice, et Max Lacasse.
Yes.
Ce soir avec nous, Jean Nadeau, conférencier, auteur et donneur de coups de pied au cul.
J'espère que ça n'a pas trop paru.
Également, Cathy Savard. Cathy Savard, qui est travailleuse sociale depuis plus d'une décennie, une entrepreneure depuis un an, qui est passionnée des relations et tout ce qui gravite autour de l'humain. Elle est enseignante en méditation également, blogueuse, podcasteuse, fière maman de deux garçons de 9 et 13 ans, dont un ayant un trouble du spectre de l'autisme. Mais Cathy est également une femme que j'admire et que j'adore, puisque Cathy fait partie de ma famille, je le dis comme ça. Cathy, c'est la blonde du père de mon fils. Et ensemble, on a vraiment une relation particulière de famille, bien, particulière. On a la chance de former une famille recomposée en bons termes et on s'entraide énormément avec nos enfants et tout. Donc, Cathy, bonsoir.
Bonsoir, ça me fait plaisir d'être ici, pour vrai.
C'est pas ta première quand même?
Non.
Quatrième? Troisième?
Quatrième.
T'en viens une habituée?
Quatrième, ben oui.
Une habituée!
Oui.
Elle va revenir quelquefois au fil de la saison. Ce soir, moi, ce dont j'avais envie de parler avec toi, c'est vraiment des séparations.
Mm-hmm.
Parce qu'on le voit, il y a des parents qui se séparent, puis c'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui se séparent en bon terme. Et il y a quand même des services, des recours pour les parents qui se séparent. Tu sais, à partir du moment où on pense à la séparation et tout, il y a des choses, des étapes finalement qu'on peut suivre. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents, là, à partir du moment, bon, on sait, là, ça va pas. Mais pas du tout.
Oui. Bien, la première étape, dans le fond, si ça ne va pas dans le couple, bien, il y a toujours la thérapie. On peut toujours aller chercher de l'aide pour essayer de, entre guillemets, sauver le couple.
Oui.
Ça, c'est la première étape.
C'est pas une bonne idée de rester ensemble pour les enfants.
Tellement pas.
Non, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser comme ça. Il y a même une étude là, que je lisais tout à l'heure où il y a seulement 25% des 600 personnes interrogées qui se sentaient libres de quitter la relation dans laquelle ils étaient plus bien, ils étaient séparés, qu'ils avaient les moyens finalement de partir, alors que 75% des gens restaient. C'est une étude britannique, ils sont séparés, mais ils demeurent ensemble pour les enfants ou pour des raisons financières.
Mm.
Ce qui n'est pas vraiment la meilleure des idées. Là. Ça peut vraiment mal se terminer dans ces cas-là.
Bien, définitivement, parce que dans un cas comme dans l'autre, ben le malaise est là, il peut avoir des conflits, il peut avoir des tensions à la maison. Donc, c'est sûr que peu importe, c'est pas une bonne idée de rester pour les enfants ou pour l'aspect financier.
Exact.
Quand on regarde par rapport aux services qui existent pour les parents qui se séparent, la médiation, ça, c'est sûr que c'est la première étape là, que moi, je recommande tout le temps. Il y a 5 rencontres que le gouvernement paye pour les couples avec enfants. Et le gouvernement paye aussi 3 rencontres pour les couples sans enfants. Donc ça, c'est peu de gens savent que ça existe aussi.
Oui.
Tout le monde pense que c'est pour les couples qui ont des enfants. Mais un couple sans enfants peut aussi bénéficier de 3 rencontres parce que on a toute la séparation des biens, tout l'aspect financier, matériel et tout ça.
Puis d'avoir un médiateur, ça peut vraiment aider à ce que ça se passe bien, là.
Ah, tellement! Ça peut sauver vraiment des gros, gros, gros conflits. Donc, d'avoir quelqu'un qui va aider dans la négociation, bien, ça adoucit un petit peu les choses, là.
Exact. Puis, il y a une nouvelle formule, en fait. Bien, moi, je l'ai expérimenté, cette formule-là, d'ailleurs, quand je me suis séparée. C'est le nesting.
Mm-hmm.
Donc ça, est-ce que tu en vois beaucoup, toi, dans ton... parce que tu rencontres quand même des gens là, tu sais, qui se séparent et tout ça. Ça, c'est les gens, en fait, qui décident de se séparer, mais plutôt que de se procurer chacun une nouvelle maison, ben c'est l'enfant demeure à la maison. Non, c'est ça. L'enfant demeure à la maison et chaque parent se promène, plutôt que de faire promener l'enfant d'une maison à l'autre.
Oui. C'est fou parce que j'en avais peu entendu parler, puis du moment où on en a parlé, c'est comme j'ai eu des clients.
Plusieurs cas.
Oui, ben oui. C'est une bonne façon de faire parce que c'est sûr que ça a beaucoup d'avantages parce que les enfants, déjà, d'apprendre que les parents se séparent, ben c'est un gros choc. Ça amène beaucoup, beaucoup de conséquences sur les enfants. Donc, c'est comme une façon de faire un petit peu plus douce où les enfants ont leur chambre, sont pas dans leur valise, sont vraiment dans la stabilité. Donc ça, ça amène vraiment des avantages quand même grands. Mais d'un autre côté, il faut avoir les moyens. T'sais, il faut que les autres parents soient capables de se payer un autre logement ou avoir un autre endroit pour vivre.
Oui.
Donc, tu sais, à court terme, ça peut...
Moi, ça a été transitoire, dans le fond. Oui. Les premiers mois de notre séparation, je louais chez mon cousin. Donc, c'est moi qui se promenais d'une maison à l'autre. Puis, on était comme coloc, finalement, si on veut. Ça, ça a beaucoup aidé là, pour l'enfant, finalement, là, en attendant qu'on se trouve chacun...
Il faut être en bon terme aussi.
Exact.
Oui,
parce
c'est
ça. Parce que c'est assez difficile dans la relation, surtout après une séparation, de maintenir un lien qui est bon. Puis, je me positionne dans le couple qui vient de se séparer. Je ne sais pas si j'avais envie de voir mon ex ou non, et de coucher dans son lit avec qui elle couche quand je ne suis pas là. T'sais, je couche dans le même lit que sa nouvelle amante ou son nouvel
amant. Mais ça dépend. Si c'est le nesting sous forme, c'est l'enfant qui demeure à la maison et c'est le parent qui vient, disons, une semaine sur deux, ben je pense pas que... Ben, en tout cas, au début, on ne conseille pas trop de présenter le nouveau conjoint ou de l'emmener dans la maison, là, parce que là, ça peut créer un autre problème.
C'est ça. Idéalement, c'est la semaine que tu n'as pas tes enfants...
C'est là que tu
t'amènes pas ta blonde ou ton chat,
ton nouveau conjoint.
C'est un moment d'acceptation du nouveau conjoint aussi.
Aussi.
Là. Si tu veux me voir, il faut que tu viennes chez mon ex.
Non, non.
Vous avez une bonne relation, mais c'est pas tout le monde qui est là. Si une des raisons de la séparation, ça a été l'adultère, pas certain que ça te tente de te retourner chez ta blonde ou chez ton ex. Là,
non, pas du tout.
Il y a sûrement des conditions. C'est sûr qu'il faut penser à l'enfant en premier, mais. Il faut que ça soit quand même dans des conditions gagnantes.
Absolument, parce que l'aliénation parentale, ça, c'est un autre problème. C'est un fléau, en fait, qu'on voit de plus en... Je pense qu'il y a plus de couples qui se séparent en... Je sais pas c'est quoi les statistiques, là, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de couples là, qui se séparent en mauvais terme. Et là, il y a l'aliénation parentale qui peut embarquer et qui peut vraiment être très nocif.
Les conflits, oui.
C'est conflit, ça, t'en vois.
Oui, beaucoup. Conflits parentales. Conflits... Aliénation parentale, moi, j'en vois un petit peu moins.
OK.
Tu sais, ça... C'est des situations qui sont vraiment plus complexes. Souvent, c'est comme une coche au-dessus, là, plus la protection de la jeunesse qui va intervenir auprès de ces familles-là. Conflit parental, moi, j'en vois énormément. Puis,
ça varie de quoi à quoi, mettons?
Tu veux dire...
En matière de conflit parental?
Bien, ça peut être... Tout peut être matière à conflit. Puis je vais vous dire que des fois, il y a des parents qui cherchent le trouble.
Ah, oui.
Qui vont... être pointilleux sur plein de détails qu'auparavant, ça les dérangeait pas, mais là, ben ils vont comme agrémenter des conflits pour faire chier l'autre.
Ça peut aller de porter des vêtements que moi, j'ai acheté, pas question que ça se rende chez vous, ou tu sais, ça peut être complètement
les lunchs,
ridicule.
L'école,
achat de trucs,
financier, je suis pas d'accord pour qu'on achète telle ou telle affaire.
Oui.
Tout peut être matière à créer des conflits. Là.
J'ai vu des parents espionner qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte à lunch de l'enfant quand l'enfant est chez l'autre parent, puis
prendre des notes, noter tous les petits détails pour après ça,
remettre.
Documenter un dossier, puis s'en servir contre l'autre.
Oui.
Ouais.
Puis, qu'est-ce que tu aurais à conseiller pour. Les parents comme ça, là, c'est ça. Tu sais, les étapes, là, comme on disait, bon, on a la médiation qui est là. Une fois que tout ça est fait, je ne sais pas trop... Là,
ben, en fait, dans les services de médiation, on peut aller... par exemple, mettons, on décide qu'on se sépare, on a des enfants, on ne sait pas de quelle façon leur annoncer la séparation.
Ouais.
Le médiateur peut nous aider à trouver les bons mots selon l'âge de l'enfant. T'sais, si on a un enfant de 3 ans versus un enfant de 10 ans ou 16 ans, ben, t'sais, on ne l'annoncera pas de la même façon. Donc, le médiateur peut nous aider à préparer un peu cette annonce-là.
OK, je ne savais pas que le médiateur pouvait aussi intervenir auprès de l'enfant.
Non, il va comme coacher les parents.
Il va coacher les parents sur la façon d'intervenir auprès
exactement.
De l'enfant.
Exactement.
OK. Ouais, ce qu'un travailleur social peut faire aussi?
Aussi.
OK.
T'sais, moi, j'en fais des accompagnements. En fait, le médiateur va faire un accompagnement comme psychosocial, mais va aussi amener tout le volet de la modalité de la garde, tout le volet financier, faire le calcul de la pension alimentaire, toute la répartition des biens. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très complet, là. Oui. Ce que moi, je ne peux pas faire, tu sais, comme accompagnement, parce que moi, je peux accompagner, par exemple, une famille en séparation, l'annonce à l'enfant et tout ça, mais tu sais, je ne peux pas calculer. Ça, je fais pas ça, là.
Puis le nesting, en fait, ça a ses avantages, ses inconvénients, comme on le disait. Puis il y a des formules de garde aussi qui ont des avantages, des inconvénients. Mais il y a la nouvelle formule, c'est 5-2-2-5, si je ne me trompe.
Oui.
Il y a de plus en plus d'adeptes de cette formule-là. Moi, personnellement, ça me mélangeait, puis je trouvais qu'on était tout le temps comme dans les bagages et tout, là.
Ça mélange l'enfant aussi.
Oui.
Bien plus. Moi, mon garçon est adopté, puis eux autres, ils ont besoin, au tout début, là, dans les premières années, ils ont besoin de stabilité.
Oui.
Fait que le 5 jours, c'est ce qui nous a été conseillé.
Oui.
Parce que l'autre, là, l'enfant, OK, je suis chez maman, je suis chez papa, il vient tout mêler. Ouais. À un moment donné, lui a voulu prendre un peu des décisions dans ce sens-là, selon ce qu'il voulait vivre. Mais au début, là, je pense que ça prend quand même une certaine stabilité. Là.
Absolument.
Bien, clairement, puis tout dépendant de l'âge de l'enfant aussi, quand on a des petits bouts de chou de 2-3 ans, bien, on peut peut-être recommander, par exemple, le 2-2-3.
OK.
C'est pour qu'il y ait comme moins de journées où l'enfant ne voit pas
l'autre. 2 jours avec papa, 2 jours avec maman, 3 jours avec papa, il retourne 2 jours,
c'est
jours,
toujours un
3?
Bloc de 2 semaines, dans le fond. Fait que quand on fait ce type, toutes les
deux
types
semaines
de garde,
ou 2 jours?
C'est 2 jours, mais quand on calcule ça, on le fait sur un bloc de 2 semaines. Pour que ça puisse arriver avec les fins de semaine.
Okay.
Mais bref, quand on a des petits, ça, c'est une modalité de garde qui fonctionne bien.
OK.
T'sais, mettons un petit coco de 2 ans, ben, de faire une garde partagée 7-7, c'est peut-être pas l'idéal.
Parce qu'on va dénaturer l'enfant?
Ben, c'est sûr que l'enfant est tout petit, a besoin souvent de l'attachement. Et beaucoup envers maman, tu sais, il y a eu probablement, en tout cas dans beaucoup de cas, l'allaitement et tout ça, la proximité. Donc, c'est sûr que la coupure peut être un petit peu plus difficile pour l'enfant.
Puis cette coupure-là, elle doit aussi se ressentir au niveau du parent qui, lui, tombe seul du jour au lendemain. Notamment, je pense au père qui est habitué d'avoir le support de la mère, surtout avec un enfant à bas âge. Ça doit être difficile au niveau de l'adaptation pour le parent?
Oui, clairement. Là, moi, quand on s'est séparés, mes enfants étaient quand même petits. Mm-hmm. On a eu cette modalité de garde-là, 2-2-3, puis je trouvais que c'était parfait. Tu sais, c'était comme...
Oui.
Je trouvais que ça faisait une transition quand même en douceur, là.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la garde, tu sais, du lundi, du dimanche au mercredi. J'étais avec mon garçon et ensuite, mon fils était avec vous, finalement, avec
le
père. Chez vous. Donc, parce que j'avais à travailler sur des événements les fins de semaine. Donc, puis moi, tous les débuts de semaine avec l'école et tout ça, ben j'aimais bien ça suivre où est-ce qu'il en était et tout ça. Et là, tu vois, vers la fin de l'année dernière, mon fils avait des besoins particuliers dans certaines matières où là, j'étais plus faible. Donc, papa, on s'est dit, OK, tous les week-ends, il est avec moi. Les soirs de semaine, sauf un, il va être avec moi, mais tous les week-ends avec moi jusqu'à la fin de l'année. Puis ça a été une formule extraordinaire. J'avais l'impression d'être avec mon fils juste pour les bons moments à ce moment-là. Mais là, la garde normale a repris, puis là, on a repris ça avec une nouvelle année scolaire en cours, puis ça va super bien.
Mais ça, c'est un exemple. C'est vraiment, en tout cas...
Ça a été très bénéfique d'y aller comme ça avec les forces de chaque parent. Oui. Moi, je suis plus au niveau des sorties éducatives, culturelles... communication, tu sais, je suis très dans le comment dire, les émotions, tu sais, je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon fils, ça, mon ex, ton chum, mon père de mon fils.
On va perdre tout le monde.
Force,
là.
Hein?
Donnez-y un nom, bâtard.
Moi, je veux... Dan. Bon. Dan, lui, est très fort au niveau de la structure, au niveau de l'apprentissage, tu sais.
Mais tout ce qui était académique, c'était facile pour lui.
Oui, tout académique, c'est ça, oui, effectivement. Donc, on est allé vraiment avec les forces de chacun. Puis c'est comme ça qu'on a réussi.
Mais vous deux, vous avez une histoire assez atypique parce que vous êtes en extrêmement bon terme malgré tout ce qui est arrivé.
Ouais.
Comment vous avez fait pour jumeler avec tout ça dans les débuts de votre relation?
La communication, je pense.
Oui, puis moi, je me souviens, tu as toujours été super ouverte. T'sais, je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais tellement contente de me rencontrer. Moi, j'avais comme... J'étais comme un peu inquiète. Pis,
ben moi, j'étais contente que...
rencontrer l'ex... Mais là, quand je t'ai vue au IGA, dans un de tes événements, je m'en souviens encore, et là...
Panier dating!
Es-tu vrai, ça?
Oui, oui.
Ben oui.
Du dating au IGA?
Ben, ouais, j'ai des mariages, des bébés, moi, des paniers dating. Mais c'est même pas des blagues.
Ah, c'est bien intéressant.
C'est très vrai. Depuis 2016, j'organise des paniers dating.
Fait que j'ai rencontré Mel dans un panier dating.
Ben oui.
Ouais.
It's a match.
Là... Oui, ça a été le coup de foudre.
Ouais. on a vraiment... Puis même tes garçons, c'est devenu... c'est quasiment comme mes deuxièmes fils. En fait, je les adore, là. De temps en temps... Durant la COVID, ça a été vraiment une formule extraordinaire parce que on faisait les gardes partagées vraiment 50-50. Donc, une semaine, ils étaient tous les trois chez moi. Je faisais l'école à la maison l'autre semaine.
Mais en fait, on divisait la semaine en deux parce que moi, à ce moment-là, je travaillais à l'hôpital à Montmagny.
Ah oui, c'est ça qui était dangereux. Oui. En fait, on avait peur, les virus, tout ça.
Donc, les lundis, mardis, mercredis, tu avais les trois enfants. Tu partais avec tes sacs de bouffe. Moi, je te faisais de la bouffe pour la semaine.
Oui.
À partir avec les enfants. Les enfants revenaient. Fait qu'on a alterné cette garde-là pendant
jusqu'à l'été.
Trois mois.
Oui.
Max,
mais ça allait super bien.
Je pense que c'est une secte dans leur affaire. Ils sont partis d'une secte.
Pour vrai, ça va tellement bien, mais c'est comme une famille. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là.
C'est une famille atypique.
Ouais, oui, c'est une famille atypique. Oui. Puis on a des enfants aussi neuroatypiques, là. Donc avec des besoins particuliers. Donc, mais ça fait bien là, pour nos enfants. Puis je le souhaite à tout le monde là, d'être en bon terme.
Mais
de...
justement, dans ta pratique, toi, c'est-tu quelque chose que tu vois souvent? Est-ce que c'est commun?
Pas vraiment.
Okay. Ouais.
Pas vraiment. Non, c'est pas commun.
Comment qu'on fait pour arriver là?
C'est dommage. C'est des gardes égaux, on dirait, entre les parents, puis...
C'est de l'ouverture.
Ouais.
Tu sais, c'est juste de s'ouvrir, puis de se dire, mais c'est les besoins des enfants. En fait, c'est que souvent, c'est l'ego qui prend le dessus, puis on c'est comme si on se dit, ah, c'est l'ex, fait faut que je l'haïsse.
Oui!
Mais pourquoi?
Ça, c'est d'emblée, hein?
Oui!
Comme là, moi, présentement, OK, je porte les bagues de deux ex-conjoints que j'ai retrouvés dans mon déménagement. Puis c'est drôle, moi j'aime ça les bijoux fins puis tout ça, puis j'allais pas m'emmagasiner vraiment, tu sais, j'avais pas le temps. Là, je tombe sur mes bagues, je fais « Ah, je pourrais les porter. » Tu sais, dans le fond, pourquoi je pourrais pas les porter? Je sais pas quoi faire avec ça. Je vendrais pas ça, assurément pas. Puis j'y trouve belle. Fait que là, je les porte, puis là, j'ai un ami qui me dit « Voyons, pourquoi tu portes les bagues de tes ex? C'est bizarre, tu sais. » Je suis comme « Ben... » font partie de moi. Là,
il les avait donnés dans quel contexte?
Ben là, c'est sûr que c'est des contextes d'amour. Là.
Puis est-ce que tu t'en souviens à chaque fois que tu regardes tes mains? Ou
non,
t'es capable
c'est ça
de faire
l'affaire.
La
j'associe pas mes bagues à ça.
Okay.
Bien que, je veux dire, je suis contente de les avoir, mais je veux dire, pour moi, je sais pas, ça me rappelle pas ça nécessairement. Et j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui pourrait être jaloux de que je porte les bagues de deux personnes que j'ai aimées dans ma vie puis que là, c'est terminé, là, t'sais, complètement.
Mais ça fait partie de notre histoire.
Ben c'est ça, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui, ces deux relations-là. Mm-hmm. Moi, je suis en bon terme avec tout le monde, avec toutes mes ex. T'sais, j'ai pas aucun ex avec qui je suis en guerre. Je vois pas pourquoi, en tout cas. Mais là, je me suis dit, je vais aller faire fondre mes bagues et je vais faire un bijou avec. Ça peut être bon, ça.
C'est une bonne idée.
Hein, c'est une bonne idée.
Bon. C'est fascinant aussi une séparation sur le point de vue de l'amour, parce que l'amour et la haine, c'est là qu'on constate que c'est vraiment très, très proche.
Ah oui.
J'imagine que tu dois le voir souvent, toi, dans ta pratique, Cathy.
Oh oui. Ben, l'amour et la haine, c'est deux émotions qui sont aux extrêmes du continuum,
aux
opposés. Mais, tu sais, on dit souvent ça, hein, amour-haine, tu sais, je l'aime, mais tu sais, je l'haïs en même temps. Mais c'est
les relations
quelque chose...
les plus intenses, c'est un peu ça aussi, là.
Ben oui, souvent, on va dire, mettons, je sais pas moi, notre mère ou, tu sais, quelqu'un qui est très, très, très proche de nous, mais on a souvent comme un espèce de tiraillement dans les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, là.
Totalement.
Oui.
Puis, au niveau... voyons, Colline, asseoir. Je sais pas encore pas, ça va de voir ça. Au niveau scolaire et tout ça, est-ce que toi, tu suis des enfants qui ont des difficultés... Mais comme ton enfant, finalement, il a été diagnostiqué là, avec un trouble du spectre de l'autisme et tout. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est l'école qui t'a comme approché pour te dire, hey, il y a quelque chose? Ou toi, tu avais des signes? Comment ça s'est fait exactement?
Ben, moi, il y a plusieurs voies là, pour les diagnostics, mais moi, c'est vraiment, c'est parti de l'école.
Okay.
Quand mon garçon commençait l'école, en fait, il allait dans une petite garderie en milieu familial. Oui, on avait comme quand même des drapeaux rouges. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui voulait peut-être pas voir certaines choses. À l'école, c'est sûr que là, je pouvais plus me mettre la tête dans le sable. Là, t'sais, c'était comme...
Quel genre de drapeau rouge t'avais?
Ben, en fait, c'est tout ce qui était... Nous, ça a commencé avec tout le volet de la motricité. Fait que ça, c'était le premier diagnostic que mon garçon a eu, trouble développemental de la coordination. Ensuite, on a eu le diagnostic de TDAH. Et là, quand la psychologue a fait les observations, bien là, elle nous a dit, il y a des éléments qui s'apparentent au TSA. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait des démarches dans ce sens-là? Mais tout ça, ça se fait pas en un mois, là. Si je vous le dis, là, mon garçon, il avait 5 ans à la maternelle, puis il a eu le diagnostic à 7 ans et demi. Fait qu'il y a comme un délai, là. Oui, c'est
mais c'est long, les tests, là, oui, psy, puis toutes les... attendre le résultat, puis bon.
Mais c'est une bonne chose aussi. On veut pas qu'il soit diagnostiqué trop rapidement, puis que ce soit une erreur.
Exactement. Eh oui, c'est ça. On veut prendre le temps de documenter, que le dossier soit bien monté, puis que finalement, on arrive au bon diagnostic. Là.
Mais pendant ce temps-là, ça doit être difficile de composer avec ça, surtout quand on ne sait pas ce qu'il y a.
Ben oui, parce qu'on est confronté à plein de difficultés. T'sais. Moi, là, mon garçon est rendu dans une classe
adaptée
pour troubles graves d'apprentissage, mais il y a 9 ans. T'sais, ça a été long avant que tout ça...
Mais ça a été le cas aussi pour mon fils.
Ouais.
Ça a pris du temps avant de mettre le doigt là, sur le bon diagnostic. Puis, mais finalement, ça a été... une fois qu'ils sont pris en charge, par exemple, là, ça va vite quand même. Les services. En tout cas, moi, je trouve dans les écoles, on manque de ressources, mais pour ma part, il y a quand même l'orthopédagogue, les services essentiels sont quand même là. Mais il faut pousser, il faut s'assurer que les suivis se fassent, puis tout, parce que sinon, ça peut facilement être échappé. Là, j'ai l'impression.
Oui, clairement. Il faut, puis tu sais, on comprend là, avec les écoles, le contexte actuel et tout ça, c'est pas évident, là. Mais comme parents, c'est notre responsabilité aussi de s'assurer que nos enfants aient les bons services.
Boum! J'attendais le moment pour intervenir et
vas-y.
Le voici.
Jean, ton tour, c'est ton
tour. Responsabilité.
Jean. Oui.
Que ça soit dans le couple qu'on forme, ou que ce soit après une séparation, ça demeure notre responsabilité. Baptiste, on a baissé... Les parents qui nous écoutent, là, vous avez baissé vos culottes pour faire vos enfants.
Oui.
Bien, Baptiste, remettez-les pour en prendre la responsabilité. Que ce soit dans votre couple quand vous êtes ensemble ou quand vous êtes séparés. L'enfant numéro un, en partant, c'est notre responsabilité.
Puis
là, on parle des
ans.
Écoles. Là, ma blonde est enseignante en deuxième année. Elle, là, quand elle a commencé à enseigner, là, elle enseignait. Français, anglais, maths, elle enseignait. Maintenant, elle gère et elle enseigne. Pourquoi? Parce qu'elle se ramasse avec des classes où la moitié de la classe a des problèmes ou des diagnostics ou des conditions, etc. Et on a l'impression que les parents viennent nous domper ça. T'sais, mon fils a un TDAH, occupe-toi, fais-en quelque chose, toi. Non, non, à la base, là, ça part de nous autres,
mais
les parents.
Tellement.
On dompe tellement dans les mains des autres. On dompe peut-être dans les mains d'une travailleuse sociale ou dans les mains du médiateur ou dans les mains des profs. Tu sais, ramenez ça vers vous autres, le monde. Là. C'est vous autres qui les avez fait, ces enfants-là, c'est votre responsabilité. Ouais. Je me parle à moi en même temps, là, parce que même si je parle de responsabilité, je ne suis pas toujours 100% responsable. Je ne prends pas mes responsabilités tout le temps comme je le voudrais, mais c'est notre job à nous autres, c'est nos enfants. On en a la responsabilité.
Ouais.
Jusqu'au bout. En couple ou en séparation.
Voilà. Il y a quelqu'un qui mentionne qui pensait que l'émission parlait uniquement de sexe, mais constate que d'autres sujets sérieux et importants sont abordés. Mais oui, c'est ça, la sexploratrice. En fait, moi, je veux toucher à tout ce qui touche la sexualité, les relations, le couple, l'amour, les célibataires, la famille. C'est important, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. On explore toutes sortes de
choses. Tout ça est dans le même melting pot, hein,
mais oui,
comme disent les Anglais.
Puis Cathy, tu as également débuté ton propre podcast.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça porte sur la méditation principalement ou sur... peux-tu nous en parler un petit peu?
Ben en fait, ça a commencé par... ça a comme évolué, là.
Oui?
Oui. Ça a commencé par le désir d'enregistrer des méditations pour mes clients en suivi.
Oui. Pour adultes et les enfants.
Oui, c'est ça, pour enfants, pour adultes. Puis finalement, ça a comme évolué vers des entrevues aussi avec des invités. Donc... C'est un peu ça, là.
OK.
Ouais, mais les thèmes, c'est santé... Mon objectif aussi, c'était de démystifier la santé mentale. Aussi. D'ouvrir...
On en parle de plus en plus. C'est de moins en moins tabou.
Oui.
Donc, enfin.
C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, tu sais, je dévoile aussi mes propres
enjeux
de santé mentale.
J'ai appris des choses dans ton podcast.
Ben oui.
By the way.
Ouais. Vous vous connaissez très bien.
On se connaît très bien. Et j'ai quand même... L'autre fois, je suis débarquée ici, je parle à Max, je dis, Hey, savais-tu ça pour Cathy? Donc, non, c'est super intéressant. Vous pouvez l'écouter. Comment on peut...
Sur toutes les plateformes, c'est le nom, c'est Élévation.
OK. Oui. Élévation sur Spotify et tout ça.
Oui.
OK. Puis, est-ce que tu aurais autre chose à conseiller aux parents là, qui sont sur le point de se séparer ou qui vivent une période difficile? Comment est-ce qu'on peut faire appel? Parfois, on ne sait pas. On ne sait pas qui appeler, où aller, comment ça fonctionne, le travailleur social, tout ça. On appelle tout simplement au CLSC le plus près de chez nous?
Bien, en fait, maintenant, la façon d'avoir des services, c'est de faire le 811. Ça, c'est la porte
d'entrée.
Ouais, okay. C'est la porte d'entrée. Donc là, la demande est évaluée à partir du 811. Et puis là, ben, c'est comme dispatché dans les différents guichets jeunesse, guichets santé mentale ou peu importe le... selon les besoins.
Mais toi, tu as ta clinique privée, on peut t'appeler directement.
On peut m'appeler directement.
On n'est pas obligé de passer par le 8-1-1 et on veut parler à Cathy, là.
Ben non. Non, si vous appelez au 8-1 puis vous demandez à me parler, ça marche pas là. Non, mais tu sais...
Est-ce que tu prends encore de nouveaux patients ou des clients, des patients, en tout cas?
Des clients, oui. Oui, j'en prends encore, oui. Oui, vous pouvez visiter mon site Internet.
C'est sur la Rive-Sud.
Sur la Rive-Sud de Québec, à Lévis, un beau petit coin dans le Vieux-Lévis.
C'est quoi la grande différence entre aller te consulter, par exemple, toi qui es une travailleuse sociale, comparativement à aller consulter un psychologue, par exemple?
Bien, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas du tout le même travail, là. Le travailleur social va davantage évaluer toutes les différentes sphères de vie de la personne. Fait que, tu sais, moi, quand je rencontre une personne pour la première fois, bien, je vais évaluer au niveau du couple, au niveau de la vie personnelle, la vie familiale, etc. T'sais. Donc, moi, je m'assure de ratisser large, là, de faire le tour vraiment là, de toutes les sphères. L'approche du travailleur social est très... on est vraiment dans l'action. T'sais, moi, je monte toujours un plan d'intervention pour...
Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Il me semble que le travailleur social, je le vois... suggérer des choses, faire des trucs, alors que le psy, c'est peut-être plus dans l'analyse et...
Oui. Je pense que le psychologue, moi, ce qu'on m'a déjà dit, le psychologue va retourner en arrière pour voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui, puis après ça, on va regarder... Puis ce qu'on m'avait dit, moi, le travailleur social, c'est « OK, c'est quoi ton problème? Regardons qu'est-ce qu'on peut faire. Regardons par en avant. On n'est pas obligé de retourner pigrasser en arrière dans puis, ce qui nous a amené là. Là.
Un peut compléter l'autre, tu sais, il peut venir en complément, là.
Oui,
clairement.
Ça dépend des périodes de notre vie, tu sais, ou quand on a vécu, par exemple, des traumatismes ou des blessures ou qu'on a besoin d'aller creuser un petit peu plus, bien là, on va voir plus un psychologue. Mais si on a des difficultés au niveau familial, au niveau du couple, au niveau personnel, tu sais, reprendre du pouvoir sur notre vie, apporter des changements concrets dans notre vie, bien, le travailleur social va vraiment pouvoir faire cet accompagnement-là parce que oui, effectivement, on est dans l'action. Parce qu'on est dans le court terme. On n'est pas... Tu sais, la psychothérapie, bien, ça peut être quelque chose qui est sur du long terme, là. Tu sais, il y a des gens qui sont en thérapie pendant 10 ans.
Oui.
Mais moi, j'offre des accompagnements qui sont beaucoup plus courts, là.
C'est vrai que ça finit plus de finir, 10 ans. Mais un parcours, disons, avec une thérapeute, avec une travailleuse sociale, combien de temps ça peut durer? Tu vas me dire, ça dépend des besoins puis de la problématique pour laquelle je viens de consulter, mais généralement, ça tourne autour de combien de séances?
Bien, ça peut être une dizaine, 10-12 rencontres.
OK.
Ouais. En moyenne, là, ça peut tourner autour de ça. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus, mais en général, c'est un peu ça. Là.
C'est cher, ce toi-là? Moi, je pose des vraies questions, c'est
parce que c'est au privé, ton cas. Donc, tu es bien des reçus, j'imagine, pour les personnes portant à ça.
Exact. Parfait. Okay. Ouais.
Donc, on peut te rejoindre de quelle façon?
Oui, sur mon site internet, catisavartravailleusesociales.com. Sinon, ma page Facebook professionnelle, catisavartravailleusesociales. Donc, toutes mes coordonnées là, se retrouvent.
Ton podcast Élévation. Oui. Merci beaucoup, Cathy.
Merci.
Merci beaucoup, Jean.
Merci beaucoup, Mélanie.
D'avoir été des nôtres ce
Max.
Soir.
Merci.
Puis on va aller voir ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt.
Je reviendrai avec des dates.
Oui, puis peut-être rappeler ta...
Oui, en fait, la retraite, la retraite que je fais avec mon ami, collègue, Régis Lachance, à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. C'est une retraite de développement personnel, 9 ateliers. Quand les gens sortent des ateliers, ils se retrouvent dans l'abbaye en silence pendant 48 heures. Donc, c'est une expérience en soi, plus les 9 ateliers. Ça a lieu la prochaine, c'est la 5e édition, le 1, 2, 3 décembre prochain. Et il reste seulement 3 places pour des femmes. Le volet homme est complet. Il reste 3 places seulement pour les femmes.
Rappelez le numéro de téléphone.
Et vous me rejoignez par texto au 418-806-2729. Je vous donnerai tous les détails.
Génial.
Merci, Mélanie.
Merci beaucoup à vous deux. Un gros merci, Max. Ça a été un plaisir.
Merci à toi aussi.
C'est une belle semaine, hein, quand même.
Ça a été toute une semaine.
Toute une semaine, on a vécu des ajustements et plein de trucs là, à l'externe. Et vraiment, merci beaucoup, chers auditeurs, d'être au rendez-vous chaque soir. Les gens interagissent via le texto, via le live, via TikTok. Écoutez, c'est vraiment, vraiment le fun d'être... Gucho Gang, regarde, on en sort encore, là. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs. On vous aime beaucoup. Puis, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets, des invités. La sectoratrice à commercial, radiox.com. Puis, comme vous pouvez voir, on va dans toutes les sphères de... Là, on est booké, par exemple, hein, jusqu'à quasiment octobre. Ouais. On a des invités de booké jusqu'en octobre.
Jusqu'à Noël, ça finit plus
ça bien. Ça va vite, ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une magnifique fin de soirée. À demain, 22h.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.